parole du jour avec le père Daniel Rambure.
Bonjour à tous. Aujourd'hui, mardi 8 janvier, nous sommes, chers amis, à 10 jours de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Alors je suis un petit peu en avance, mais voilà, je voulais vous parler aujourd'hui du christianisme en Ukraine. Ce pays, vous savez, qui souffre une guerre larvée depuis bien des années avec son grand voisin, la Russie, Moscou. Pour ça, je voudrais vous faire un petit peu d'histoire et vous raconter ce christianisme en Ukraine et qui renaît de ses cendres, d'un véritable enfer durant le siècle dernier. Je voudrais vous rappeler brièvement dans quel contexte le christianisme a pu souffrir et comment, d'abord, comment il est né. C'est au IXe siècle, la tribu des Varegs, venue de Scandinavie, qui unifie le pays, peuple de Slaves, et fonde ce qu'on appelle la Rus, ou l'État de Kiev. Quand la Moscovie aura pris son essor, l'État de Kiev sera appelé la Petite Rus, la Petite Russie. Et le nom d'Ukraine ne viendra que plus tard, signifiant le pays frontalier, ce qui fait dire à un historien ukrainien, nous sommes un peuple auquel on a volé jusqu'à son nom. Oui, c'est une nation européenne façonnée par le christianisme. Le christianisme arrive de Constantinople et aussi de Rome, et c'est devenu religion d'État à la fin du Xe siècle. Le roi Vladimir, en se faisant baptiser, nous sommes en 988, voulait faire participer son pays à la civilisation chrétienne. Et il a eu pour successeur Yaroslav le Sage, 1019-1054. C'est un bâtisseur qui fit construire de nombreuses églises, la plus célèbre étant Sainte-Sophie, à Kiev. Elle date de 1035. Et puis beaucoup de monastères aussi. Il avait épousé Ingeger de Suède. Il maria sa sœur à Casimir de Pologne. Ses filles, Elisabeth, Harold de Norvège, Anne à Henri Ier de France, Anastasie à André de Hongrie. Vous voyez que c'est déjà une politique non seulement de paix, mais aussi voilà, d'alliance avec différents pays d'Europe. Du 9e au 12e siècle, la Rus de Kiev est une des grandes puissances européennes. Il y a une politique d'équilibre qui était menée entre les deux sièges du christianisme, Byzance et Rome. Et la tragique rupture en 1054, la rupture entre orientaux et occidentaux, je m'en expliquerai la semaine prochaine, cette tragique rupture en 1054 entre orthodoxes et catholiques n'affecteront les relations que plus tard. C'est une nation éprouvée. À partir de 1240, les Mongols allaient dominer le pays, puis les Polonais, puis les Lituaniens. Au XVIIIe siècle, le pays se trouve divisé en deux parties. L'Ouest sous la domination polonaise et catholique, l'autre partie sous la domination de l'Empire russe et orthodoxe. Cette division déterminera fortement le destin religieux du peuple ukrainien, qui s'est toujours méfié de l'emprise de Moscou, d'où un éclatement à l'intérieur même de l'orthodoxie. Les tensions entre orthodoxes et catholiques dégénèrent surtout au XVIIIe siècle, en véritable guerre de religion. Et leurs souvenirs continuent à marquer l'inconscient collectif. Il faut se rappeler de ça. Et puis, au XXe siècle, à l'époque stalinienne, ces églises vont connaître l'agonie. Il y a 6 à 7 millions d'Ukrainiens qui vont périr dans ce qu'on appelle l'Holocauste masqué, condamnant à mourir de faim la paysannerie résistante. Nous sommes entre 1932 et 1934. Et puis l'avancée allemande, en 1941, fera 8 millions de morts. Enfin, on ne peut oublier, comme un malheur supplémentaire, la catastrophe nucléaire de Tchernobyl en 1986. Tout ça, il faut le l'avoir en tête pour essayer de comprendre ce qui se passe aujourd'hui. À partir de 1929, Staline entreprit la liquidation de l'Église catholique. Les églises furent fermées, les évêques et prêtres envoyés au goulag ou expatriés. Et puis une fois cette liquidation faite, ce fut le tour des églises orthodoxes, où l'Holocauste masqué, ce dont je parlais tout à l'heure, en mourir de faim. Pendant ce temps, la population avait changé. En 1985, un tiers de la population était russe. Le christianisme a vécu de manière souterraine, cachée, avec beaucoup de martyrs de la foi. Enfin, depuis 1991, c'est l'indépendance. Il y a un réel réveil de la foi. Beaucoup de personnes qui n'avaient pas été baptisées ont fait la demande et ont dû organiser des baptêmes collectifs. Les églises qui étaient devenues des musées, des piscines, des salles de cinéma ou des entrepôts sont, faut le dire avec beaucoup de difficultés, rendues au culte. Et elles sont bien vivantes chez les orthodoxes, relevant du patriarcat. Chez les orthodoxes, il y a 3 patriarcats. Alors c'est en train de changer, je vais vous expliquer cela. Il y a le patriarcat de Moscou, le patriarcat de Kiev et puis le patriarcat autocéphale. Et comme chez les catholiques, il y a aussi 2 archevêchés, gréco-catholiques, qu'on appelle les uniates, et puis les romano-catholiques. Les séminaires sont remplis, ainsi que les monastères. Mais disons que l'œcuménisme n'est pas encore tout à fait au point là-bas. C'est encore beaucoup, beaucoup de confrontations entre ces différents groupes. Alors je vous résume. Par rapport à la population, il y a 15% qui font partie du patriarcat de Kiev et 1% autocéphale. Il y a 11% du patriarcat de Moscou, 6% qui sont gréco-catholiques, qu'on appelle les uniates, et puis 0,5% catholiques latins, 1% de protestants. Alors si vous faites bien le compte, il reste 65% de gens qui se disent non-croyants ou non-pratiquants. Seul le patriarche de Moscou était jusqu'à présent reconnu par l'ensemble du monde orthodoxe. Mais vous savez, le sentiment d'indépendance vis-à-vis de la Russie pousse à refuser toute autorité venant de Moscou. Le 15 décembre dernier, avec la bénédiction du patriarche Bartholoméos, qui est le primat de toutes les orthodoxies, un concile s'est réuni à Kiev pour la création d'une nouvelle église orthodoxe d'Ukraine. Bien sûr, les évêques du patriarcat de Moscou ont été très peu à venir. Je crois qu'ils ont été 2 ou 3 à venir. Nous ne sommes pas du tout dans le contexte que nous connaissons en France, mais nous l'avons connu autrefois, avant la Révolution française. Un évêque de l'église de Kiev disait « L'Ukraine est un État indépendant, l'église est sa famille ». On dirait plus ça en France. C'est le problème pour toutes les orthodoxies d'ailleurs, de faire le lien trop fort entre religion et État. Alors, il y a aussi un nouveau patriarche qui a été élu. L'Ukraine aura alors sur son territoire 2 églises orthodoxes qui sont canoniques, reconnues par tous les orthodoxes du monde entier, le patriarcat de Kiev et le patriarcat de Moscou. C'est un événement historique après 1 siècle de persécution, mais aussi une potentielle source de conflit, hélas. Voilà, chers amis, ce que je voulais vous dire un petit peu de l'histoire de l'Ukraine et l'histoire religieuse. Quand ces chrétiens orientaux viennent à Chartres, ils manifestent une très grande dévotion au voile de la Vierge Marie, déposée dans la chapelle du Tour du Cœur. Eh bien, confions-les à Marie. À demain.